Se parler de l'église locale, ça demande d'avoir une bonne théologie, d'abord, et puis aussi d'avoir quand même une bonne expérience de l'église. Alors, la mienne est relativement courte, vu mon âge, mais comme c'était à moi de parler, alors je me suis préparé du mieux que j'ai pu dans le temps que j'ai eu. Je commence par faire des études, c'est pas bien. Parler de l'église locale, ça se justifie parce que il est vrai que la majorité des emplois du mot église dans le Nouveau Testament se rapportent à l'église locale, c'est-à-dire l'église d'une localité, voire d'un quartier. Mais une fois cela dit, le travail n'est pas simplifié pour autant, et je vous avoue que j'ai rencontré un problème de méthode. De quoi partir pour parler de l'église locale? Tous les théologiens qui se sont penchés sur la question en ont conclu apparemment qu'il était plus facile de décrire l'église locale que de la définir. Alors je me suis dit, peut-être c'est comme ça qu'il faut procéder, tout en ayant à l'esprit ce que le Nouveau Testament et la théologie, l'ecclésiologie, dit de l'église locale. Alors, partir d'où? J'ai pensé partir du credo. Je crois dans l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Mais ce sont des catégories trop vastes pour être vraiment utiles pour parler de ce qui se fait, ce qui se vit dans l'Église locale. Les images bibliques elles-mêmes, peuple de Dieu, nouvel Israël, corps du Christ, etc., sont aussi des images très utiles, très intéressantes, mais qui recouvrent tellement de choses, qui ont tellement de facettes, que ça ne servait pas, en tout cas, ça ne m'a pas paru utile pour construire mon plan. J'ai aussi rencontré une méthode que je signale au passage, qui consiste à partir d'une image non biblique. Je veux parler du livre de Ralph Challis, qui s'appelle « La cellule vivante », et ça ne m'a encore moins convaincu. Il part du principe que l'Église universelle est le corps de Christ et que les églises locales sont les cellules. Et alors, d'ici à parler de cellules, même il ose la comparaison avec les cellules communistes, il n'y a qu'un pas. Et ça peut aboutir peut-être à quelques idées intéressantes, mais c'est tout à fait contestable. Alors finalement, je suis revenu à ce qu'on appelle un sommaire biblique, qu'on trouve dans les Actes, au chapitre 2, qui dans un premier temps ne m'avait pas convaincu, parce que je me disais, ça concerne l'Église à une époque bien particulière, ce n'est pas un exposé complet. Alors je l'ai complété avec quelques versets qu'on trouve sur la vie de l'Église locale, aux origines. Alors je commence ma lecture au chapitre 2 du livre des Actes, versets 42 et suivants. Ils, les chrétiens, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Au chapitre 4 aussi, les versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur, Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient au pied des apôtres. et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est au chapitre 5, les versets 12 à 16. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Jusqu'ici notre lecture. J'ai choisi ces textes de départ, bien que j'en partirai d'un peu loin, parce que il me semble que on a là la description globale de ce qui se passait dans l'Église primitive, de ce qui se fait dans une Église locale, de ce qui s'y passe et de ce qui s'y vit. Le premier sommaire que nous avons lu au chapitre 2 commence par l'enseignement des apôtres. Et l'on voit que ce qui est à l'origine de tout ce phénomène d'église naissante, c'est le témoignage que les apôtres rendent au Christ. Alors j'aime ce mot de témoignage pour rendre compte de la vérité que l'on transmet concernant le Seigneur Jésus. Acte 1.8, vous connaissez, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » L'intérêt de ce terme est multiple. D'abord, il ne sépare pas entre l'enseignement, l'édification et l'évangélisation, comme souvent nous avons l'habitude de le faire. Il met aussi l'accent sur une relation vivante avec une personne. L'enseignement des apôtres n'est pas seulement une théorie, c'est quelque chose, c'est un message qui vient d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, une autre raison pour laquelle ce mot est intéressant, c'est qu'il a deux aspects. Le témoignage, c'est ce qui fonde l'Église. Et c'est d'abord le témoignage que Dieu a rendu à son propre Fils en le ressuscitant. C'est le témoignage que le Fils a rendu à l'amour du Père en mourant sur la croix. C'est ce témoignage qui fonde l'Église. Et c'est aussi ce témoignage qui est donné en défaut à l'Église, dont l'Église est la gardienne. Et c'est dans l'enseignement qui découle de ce témoignage que l'Église des origines persévérait. Si l'Église existe, c'est à cause de ce témoignage que je résumerai ainsi. Alors, je vous dis tout de suite que je vais écrire quelques mots en grec, transcrit en français. C'est pas une déformation de théologien qui a encore mal digéré son grec. Simplement, avant de faire la fac de théologie, je connaissais comme ça quelques mots en grec qui faisaient parler d'eux. Et je trouve que c'est intéressant de connaître comme ça quelques mots grecs qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament, qui en plus dans une Bible, comme la Bible à la colombe en format, sont signalés en bas de page. La traduction littérale en est souvent signalée. Et si ça fait parler d'eux, pourquoi pas? Alors je vous les écris en grec. Vous lisez Marturia, c'est de là que vient le mot martyr. Et c'est ce mot qui est traduit dans nos Bibles par témoignage. Et la base de ce témoignage, c'est la venue du Christ sur la terre, l'incarnation, Dieu fait homme, sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est ça le centre de l'Évangile et le fondement de l'Église. À l'origine de l'Église, il y a des faits salutaires, des faits qui sont notre salut, ces faits. Et c'est cela le fondement de la prédication et de l'enseignement apostolique. Alors voilà une des premières choses, c'est à la fois une chose qui fonde l'Église et en même temps une des premières choses qu'on fait dans l'Église. On persévère dans l'enseignement des apôtres. Et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, et probablement aussi que Luc, le rédacteur des Actes, l'a écrit en premier dans son sommaire. Deux buts à cet enseignement: susciter la foi chez ceux qui ne l'ont pas, c'est la perspective missionnaire, c'est l'évangélisation. Et puis un but pour ceux qui sont déjà croyants, les nourrir, les entretenir spirituellement, nourrir la foi, et c'est ce qu'on appelle l'enseignement. Alors la forme change, mais le message reste le même: connaître Dieu par Jésus-Christ. D'ailleurs, le rassemblement du dimanche matin est le lieu où l'on rappelle, même quand il n'y a personne d'incroyant, où l'on rappelle les faits fondateurs de notre salut: Dieu fait homme, sa mort sur la croix et sa résurrection. Alors, cet enseignement a plusieurs formes qu'on peut séparer en plusieurs catégories. On pourrait dire qu'il y a un enseignement sous forme pastorale. C'est la prédication, exhortation, consolation, encouragement. Il y a un enseignement sous forme dogmatique, éthique, ce que la Bible affirme. Il y a un enseignement sous forme doctorale, qui a un caractère plus scientifique, d'élaboration, de dialogue avec les sciences. Et puis, il y a une forme pratiquée, c'est le culte tel qu'on le vit et qui signifie en lui-même quelque chose. On peut distinguer aussi les formes d'enseignement en fonction des destinataires. Quand on s'adresse aux non-croyants, c'est l'évangélisation. Quand on s'adresse aux adultes croyants, c'est ce dont on vient de parler. Quand on s'adresse aux jeunes croyants, jeunes par l'âge ou jeunes par le caractère récent de la foi, c'est le catéchisme, l'introduction à la foi chrétienne. Et puis, quand on s'adresse aux enfants, qui dans l'Église ont un statut un peu ambigu, c'est l'école du dimanche, qui a un caractère mixte à la fois d'enseignement et d'évangélisation. Voilà les différentes formes d'enseignement dans l'Église. Alors, question rapide, qui enseigne? La réponse du Nouveau Testament, c'est principalement les pasteurs anciens, docteurs, surveillants, conducteurs, tout ça en un seul mot, les ministères de l'Église, qui ont la formation, le don et la charge reconnue par l'Église. Et je m'arrête un tout petit instant sur ces trois choses pour dire qu'elles sont inséparables. Ce sont eux qui principalement enseignent, mais avec l'humilité qui tient compte du fait qu'ils sont frères parmi leurs pères et que l'Écriture est au-dessus d'eux. Et dans ce sens-là, c'est un peu différent de la situation de l'Église primitive où c'était les apôtres eux-mêmes qui enseignaient. Maintenant, nous avons le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament et nous sommes tous avec notre Bible dans la main, avec certains d'entre nous plus particulièrement chargés d'expliquer cette parole, mais qui doivent le faire avec l'humilité de ceux qui savent que Dieu a mis la Bible dans la main de tous leurs autres frères et sœurs. Alors, conséquence, tous les chrétiens ont une responsabilité de témoignage au sens large, d'enseignement. D'abord envers les non-croyants, et là il me semble, dans les questions qu'on se pose dans l'évangélisation, qu'on pourrait se poser la question à soi-même: si nous étions incroyants, comment voudrait-on qu'on nous parle de l'évangile? Et c'est peut-être le commencement de la réflexion sur l'évangélisation. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais les aînés dans la foi aussi ont un rôle d'enseignement envers les plus jeunes. Alors, c'est le cas de l'école du dimanche. Et c'est le cas aussi pour nous tous. Rappelons-nous les exhortations de l'apôtre Paul dans les pastorales, que les femmes plus âgées enseignent les jeunes, etc. Et finalement, nous avons tous, envers tous, une responsabilité d'enseignement. Et c'est peut-être ça aussi l'humilité chrétienne. Tout le monde peut apprendre de tout le monde, sans niveler les différences, mais tout de même. Et c'est pour cette raison, en plus pour une raison de pédagogie, qu'il est nécessaire qu'il y ait des lieux dans l'Église pour le dialogue entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné. Alors l'Institut biblique, c'est un lieu comme ça. J'espère que je ne parlerai pas trop longtemps et qu'on aura le temps de dialoguer tout à l'heure. Et même dans l'évangélisation, mais il faudra y revenir une autre fois. Donc, premier aspect, l'Église locale est un lieu où l'on parle du témoignage des apôtres, où l'on écoute l'enseignement, où l'on discute. Je crois qu'on peut le dire. Voilà. Donc, l'Église qui a été fondée par le témoignage de Dieu se rassemble à la convocation de Dieu et c'est le sens du mot Église, Ecclésia, c'est le mot qui traduit le terme assemblée de l'Ancien Testament. Chaque fois que le peuple d'Israël se rassemblait, la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, traduit ce mot par Église. Et c'est une expression privilégiée du Nouveau Testament. Donc nous, le nouvel Israël, nous nous rassemblons à la convocation de Dieu pour continuer à écouter cette parole et pour autre chose. Et le deuxième aspect de la vie de l'Église, que je relèverai dans les passages que nous venons de lire, c'est le culte, dont les deux composantes principales nous sont données par Luc, les prières, la fraction du pain. J'insisterai dans le culte sur l'aspect de relation verticale, c'est-à-dire la relation avec Dieu. On parlera juste après de la relation communautaire. La relation avec Dieu qui fait parler de l'Église comme l'épouse du Seigneur. Le culte, c'est en quelque sorte la réponse de l'homme. Et la prière, élément fondamental de ce culte, place l'homme devant Dieu, à sa juste place. Celui qui demande à Dieu, qui reçoit tout de lui et qui dit merci. La prière affirme la dépendance de la créature à l'égard du Créateur. Une dépendance reconnaissante. Et puis, le repas du Seigneur, lui, nous oblige à nous rappeler la dépendance du Dieu Sauveur. Et c'est ce repas qui oriente notre action de grâce, qui la dirige principalement vers le don du Christ. La prière exprime la foi, l'espérance, l'amour. La prière et la scène, le chant, les paroles et les gestes, et prendre la scène c'est un geste, font participer non seulement l'esprit, mais aussi le corps au culte. J'en vois qui hausse les profils. Notre corps et notre esprit qui sont offerts à Dieu dans une offrande cultuelle commune. Et le Nouveau Testament utilise le terme d'offrande liturgique. Nous nous réunissons pour un culte dont le grand prêtre, le grand liturge, comme l'appelle l'Épître aux Hébreux, le grand liturge, c'est Christ lui-même qui a offert un sacrifice unique, une fois pour toutes, pour nous tous, et qui intercède maintenant pour nous. Et il faut se rappeler que l'Écriture utilise aussi le terme de sacrifice pour désigner notre culte personnel et communautaire. Nous sommes tous prêtres, dit le Nouveau Testament. Et c'est l'origine du mot sacerdoce universel. On en parle souvent. Et je vais citer quelques exemples qui peuvent prendre place dans le culte. Je n'écris plus au tableau parce que, pour gagner du temps, parce que je risque d'être un peu long. Romains 12, vous connaissez, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et comme je le disais tout de suite, le chant qui fait participer notre corps, les gestes, se lever, s'asseoir, que j'ose dire lever les mains, des fois, parfois, ou d'autres, la déambulation de ceux qui vont distribuer le repas du Seigneur, tout cela fait participer notre corps au culte. L'Épître aux Hébreux au chapitre 13, dont nous avons parlé, dont j'ai parlé dans mon dernier sermon, parle de la louange comme un sacrifice. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'apparemment le chant joyeux, qui est vraiment indissociable du culte chrétien, semble quelque chose de vraiment spécifique au culte chrétien. Donc, paraît-il, on ne rencontre pas le chant joyeux comme ça, ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme. La joie est quelque chose qui marque spécifiquement le culte chrétien. Alors nous sommes invités à venir devant Dieu humbles parce que pécheurs, mais joyeux parce que pardonnés. Et il nous faut souligner la victoire du Christ. Alors c'est pour ça que le chant tient, et même depuis un certain temps, tient un peu plus, encore plus de place dans notre culte. Alors, ni morneté, ni délire, mais la joie vraie qui vient de Dieu. Les prières aussi sont présentées comme un sacrifice. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'autel des parfums sur lequel on faisait brûler du parfum. Et le Nouveau Testament nous parle de nos prières comme le parfum qui monte jusqu'à Dieu. Alors, dans la communauté, il y a des prières improvisées. Il y a aussi, il pourrait y avoir, des prières préparées, des prières lues. Après, tous les chants que nous chantons sont des prières lues, souvent. Les psaumes, le Notre Père. La Bible nous encourage à cette diversité. Mais là-dessus, il faudra revenir aussi. La confession des péchés, le cœur brisé et contrit, cela prend aussi figure de sacrifice. Bien sûr, tous ces sacrifices n'ont ni la même signification, ni la même portée, ni la même valeur que le sacrifice du Christ, unique. Mais ils font plaisir à Dieu. Et ça fait partie de ce mystère. Nous sommes capables d'émouvoir, en quelque sorte, Dieu par nos sacrifices. La libéralité que le Nouveau Testament appelle la communion. C'est curieux de voir que très souvent, peut-être la moitié du temps, quand le Nouveau Testament parle de communion, ça signifie tout simplement offrande, le fait de donner de l'argent pour subvenir aux besoins des frères et sœurs. La libéralité est un sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Et puis pour terminer, et ça m'a surpris, je n'y attendais pas, c'est un verset que je n'avais pas remarqué vraiment jusqu'alors, les conversions. Et oui, Paul apportait ses convertis comme un sacrifice agréable à Dieu. Et je me suis dit, dans la vie normale d'une église, ceux qui viennent s'ajouter à l'église, qui acceptent le don de Dieu, c'est un sacrifice que Dieu apprécie et que l'église lui offre. Donc l'église est quelque chose qui bouge, qui s'ouvre, qui grandit en amour et en nombre. Voilà pour le culte. Troisième aspect que je voudrais souligner et qui devrait déjà être présent dans le culte, c'est sûr, c'est l'aspect que M. Blocher a bien souligné tout à l'heure, l'aspect de communion. Communion dans le sens qualité des relations. La communion, nous l'appelons fraternelle, à la suite de Luc dans le passage que nous venons de lire. Pourquoi fraternelle? Parce que c'est Christ qui a fait de nous des frères et des sœurs. C'est la convocation de Dieu qui fait l'être de l'Église. C'est le sacrifice du Christ qui le permet. C'est l'opération du Saint-Esprit qui permet déjà de donner un caractère visible à l'unité que Dieu nous donne. Et c'est ce qu'il faut souligner en premier. La fraternité chrétienne, la communion fraternelle, a un aspect céleste. Elle vient d'en haut. Elle nous est donnée de Dieu. Nous avons un salut commun, nous avons une foi commune. L'Esprit de Dieu nous habite tous. Une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on a terminé de parler de communion fraternelle? J'espère que non, j'espère que si j'arrêtais là, vous seriez déçus. Et souvent, je rencontre à ce sujet un langage un peu que je qualifierais de creux. On lit ça des fois dans des livres chrétiens. Et alors on dit, voilà, pour que nous vivions vraiment la communion fraternelle, comme c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, il faut que nous soyons imprégnés du Seigneur, il faut que nous libérions l'esprit. Alors je me dis, oui, je suis d'accord, c'est vrai, mais concrètement, ça se passe comment? Et il faut dire que la communion fraternelle a déjà un aspect terrestre, visible, concret, qui se manifeste dans une qualité de relation. Alors on a vu tout à l'heure le partage des biens, la collecte. Mais si on lit dans l'Épître aux Romains, par exemple, chapitre 15 et verset 26, on voit que c'est une église locale qui fait une collecte pour une autre église. Ou c'est une église locale qui soutient financièrement un apôtre. Et ça devrait déjà nous avertir devant les tentations, la tentation qui consisterait à copier tout simplement l'église primitive. Ils étaient toujours, tout le temps, ensemble, et ils partageaient tout. C'était vraiment la communauté totale. Alors on pourrait avoir envie de revivre vraiment ça. Mais là, on a une indication, apparemment, l'église de Rome ne fonctionnait déjà pas de cette manière, et l'apôtre ne leur en fait pas le reproche. Mais nous devons quand même veiller à ce qu'il y ait des formes équivalentes, je dirais, tout aussi significative de communion entre nous. Alors la collecte en fait partie. Mais surtout, et je ne voudrais pas trop parler, alors je ferai seulement quelques remarques. On pourrait parler de beaucoup de formes dans la manière dont la communion fraternelle peut s'exprimer. J'insisterai surtout sur le côté de qualité de relation que nous devrions cultiver entre nous, à partir de deux textes bibliques. L'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2, je vous le lis rapidement. Portez les fardeaux les uns des autres. Et puis l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse. Je tire une conclusion rapide de ces deux versets, peut-être un peu brutale. Nous sommes tous les pasteurs les uns des autres. Je crains que si nous ne sommes pas d'accord avec cette conception des relations fraternelles, un jour Dieu nous demande « Qu'as-tu fait de ton frère, de ta sœur ? » Est-ce que nous aurons le courage de répondre « Suis-je le pasteur de mon frère ?» Personne dans l'Église n'a le droit d'être seul dans l'épreuve. On doit avoir la possibilité d'être seul dans l'épreuve. Tout le monde dans l'Église a droit à la prière des autres, et plus qu'à la prière, à leur présence, à leur investissement personnel. Bien sûr, on paye des pasteurs qui sont à plein temps pour faire ce travail, et je tiens à souligner que c'est une belle manifestation de la koinonia, de la communion fraternelle. Mais si la communion fraternelle, si l'aide, si l'entraide, si l'accueil réciproque se limite à cela, alors il me semble qu'il y a quelque chose d'artificiel. On fait l'aumône, c'est tout. Personne ne doit s'égarer sur une fausse piste dans l'Église sans être averti par des frères, des sœurs. Et il nous faut nous poser la question, savoir si l'argument du respect de l'autre n'est pas parfois un alibi pour ne pas être dérangé. Alibi qui finalement et la Libye d'un crime spirituel. Ceci dit, il faut reconnaître que chaque membre ne peut pas porter le poids de soucis spirituels de tous ses frères et sœurs de la communauté. Déjà, les pasteurs n'y arrivent pas lorsqu'ils ne font que ça. Il faudrait éviter de se culpabiliser trop facilement. Et puis, un autre aspect à souligner, c'est qu'avant d'être pasteur de quelqu'un, entre guillemets, il faut gagner sa confiance. Et c'est là que je ne voudrais pas donner l'impression, en disant cela, que je voudrais donner l'impression de ne pas être simpliste. Mon frère, ma sœur, n'est pas une chose sur laquelle je peux avoir une action, comme avec un outil. C'est une personne. Et il ne faudrait pas trop spiritualiser les relations dans l'Église. S'il est vrai que l'unité de l'Église, qui est une de ses marques essentielles, nous vient d'en haut, de Dieu, la communion concrète, elle, n'est pas donnée d'emblée. C'est une création de rapports entre des personnes, de rapports interpersonnels, de rencontres, où l'un et l'autre se rendent un peu plus vulnérables, s'ouvrent, comme on dit. Créer des liens humains, sociaux, sans lesquels la relation soi-disant fraternelle n'est qu'une énorme contradiction. Alors, entre l'assistance au culte, et j'utilise volontairement cette expression, que je trouve... que je désapprouve, parce qu'on n'assiste pas à un culte, on y participe. Donc, entre l'assistance au culte, qui est une extrême, et puis l'amitié profonde qu'on peut avoir avec certaines personnes seulement de la communauté, il y a toute une gamme de lieux et de relations, de types de relations où peut et où doit s'exercer la communion. Encore faut-il que ces lieux existent et que nous acceptions un investissement de nos personnes. Et entre parenthèses, je fais une toute petite parenthèse, la scène, on le voit, la Sainte Scène, était prise au cours d'un repas. Alors c'est vrai que la scène que nous connaissons dans le culte est assez différente. Il n'y a plus le contexte du repas. Et comme je l'ai déjà signalé une fois, et vous m'entendrez encore le dire, certainement, souvent même, on ne se regarde même pas pendant la scène. Est-ce que la dimension du repas n'est pas presque complètement évacuée? Il y a des églises où, au moment où on se passe le pain, la coupe, on se dit quelque chose et on se regarde. Même si c'est une formule stéréotypée, ça nous oblige à regarder l'autre dans les yeux. Et je crois qu'il y a, c'est pas le seul moyen, on peut en imaginer d'autres, qui conviennent selon les tempéraments. Il nous faut trouver une autre manière de retrouver ce côté social de la communion qui était prévu à l'origine avec le repas du Seigneur. Alors, est-ce qu'il faut proposer des dimanches d'invitation? Est-ce qu'il faut faire un café en bas, après le culte? Il y a toutes sortes de solutions où la créativité de chacun peut s'exercer. Alors, je laisse ça à votre réflexion. Et puis une dernière remarque, et je crois que j'arrêterai après, c'est qu'il nous semble, qu'il, dans le cadre de l'Église, qui est un groupe, qui est une société, nous devons assumer les apports valables, tous ne sont peut-être pas valables, mais en tout cas les apports valables, de la sociologie, des sciences humaines modernes. La sociologie a étudié le fonctionnement des groupes, et nous sommes un groupe. Et je crois que nous avons à apprendre de la sociologie, par exemple, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la cohésion d'un groupe ou la défavoriser. Et j'en signalerai juste quelques-uns. Parmi ce qu'on appelle les forces de cohésion en sociologie, les forces qui font qu'un élément va rester dans le groupe et ne va pas s'en éloigner, il y a tout ce qui tourne autour des buts du groupe. Quand un groupe se réunit, il a des buts. Alors, bien sûr, notre but, notre finalité, notre but ultime, c'est la gloire de Dieu. Mais on a des buts un peu plus précis, à long terme, et c'est ce dont on est en train de parler, favoriser l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, rendre un culte communautaire à Dieu. Et c'est ça qui fait déjà la force énorme de l'Église, qui lui donne la force de se mobiliser pour certaines choses. Mais il me semble, à la lumière des études sociologiques, qui ne sont plus si récentes que ça d'ailleurs, que nous avons besoin de projets encore plus précis, que nous évaluons ensemble, que nous acceptons ensemble et que nous menons à bien ensemble. Des projets annuels, des projets ponctuels qui sont nécessaires à la cohésion de notre communauté. Alors j'aurais voulu encore parler d'un dernier chapitre. Il s'agit de la mission de l'Église, notamment dans l'action sociale et l'évangélisation. Je dirais juste une chose sur l'évangélisation avant de conclure. D'abord qu'il s'agit d'une priorité de l'Église. La dernière parole quand même que le Christ a laissée à ses apôtres, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Mais alors comment ça se passe dans l'Église locale ? Il faut rappeler l'existence de ministères d'évangélistes, ou de dons que l'un ou l'autre, d'aptitudes particulières que certains auraient à l'évangélisation, ne serait-ce que pour échapper à l'asservissement, parce que ça peut en être un, de penser que tout chrétien consacré devrait passer ses heures libres dans la rue à distribuer des traités. Il y a des dons et des ministères, et on ne peut pas niveler la responsabilité de chacun, les activités de chacun dans l'évangélisation. Mais ce qu'il faut signaler quand même, c'est qu'apparemment le Nouveau Testament ne donne quasiment pas d'exhortation générale à l'évangélisation qui serait adressée à tout chrétien. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je pense que quand on considère l'ensemble de la communauté, et on le voit dans les actes, c'est la vie même de la communauté qui est le plus grand facteur d'interpellation de ceux qui nous entourent. Alors, c'est pas valable dans toutes les situations. Et je rappelle la nécessité, l'importance extrême de dons et de ministères et d'activités spécifiques d'évangélisation. Mais ce qui reste fondamental, c'est la manière dont vit la communauté. Et je citerai l'abbé Pierre, que tout le monde connaît. Il me semble que la Bible tendrait à lui donner raison quand il disait: si Dieu est ce que vous faites, alors il m'intéresse. Autrement dit, si la proclamation de l'Évangile reste une priorité pour l'Église, est-ce que le témoignage d'une belle vie communautaire n'est pas la manière la plus biblique, la plus équilibrée et valorisante pour tous, peut-être la plus efficace aussi, et la plus nécessaire en tout cas dans l'entourage d'une communauté qui existe déjà. Alors, je conclue. Je crois que la première chose à faire, parce que la question c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait ? La première chose à faire, c'est d'abandonner une image qui serait trop chimérique, le produit d'une imagination pieuse. Rappelons-nous la prédication de dimanche passé. Ne sois point sage à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu? Et commencer par reconnaître l'œuvre de Dieu. Il me semble que quand l'amertume se glisse dans les cœurs de certains face à une communauté dont la vie leur déplairait, il me semble que c'est parce qu'on oublie de reconnaître d'abord l'œuvre de Dieu, de le remercier pour nos frères, pour nos sœurs qui sont là, pour l'Église qu'il nous a donnée, pour l'unité dans le salut qui existe déjà. C'est en partant de ce qui existe déjà, en étant reconnaissant pour la beauté de ce qui est déjà là, qu'on peut aller plus loin. Sinon, on devient dur avec nos frères, dur avec nous-mêmes, et finalement, on court le risque de s'aigrir contre Dieu lui-même. Alors, ce n'est pas un prétexte pour ne pas s'interroger, pour ne pas s'engager. Je ne donnerai pas de trucs, mais il me semble que ce qu'il faut retenir, c'est que l'on a besoin de faire un travail sur soi-même pour que la communion grandisse. Il y a des zones de nous-mêmes, de nos personnalités, de nos vies, qui sont peut-être encore à évangéliser, et il faut nous interroger sur notre investissement personnel. C'est ça qui fait la différence entre une communion et une masse de gens, une foule. Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous sommes la famille. Amen.
Merci bien, Michel, pour cet exposé à la fois fouillé, clair, pratique. J'ai, faut bien le reconnaître, une expérience de vie dans l'église locale un peu plus longue que M. Richer, et elle me porte à confirmer énergiquement ce qu'il a dit tout au long et en conclusion. Donc, je pense que nous pouvons le remercier beaucoup. Mademoiselle Monet devrait aussi s'approcher, puisque ce qui est prévu, c'est qu'il y ait des éléments de table ronde, enfin, comme on dit. Mais peut-être que pourrions-nous commencer par des questions d'éclaircissement, de précision adressées directement à M. Richer, puisqu'il vient de nous faire son exposé. Tout était très clair, mais parfois on aime quand même avoir une explication supplémentaire encore. Oui, monsieur.
Oui. Je ne parle pas encore plus français, mais le français, avec la grâce de Dieu,
oui.
Je suis juif, et en français, comment traduire le mot « peace »
oui.
En latin « pax » Comment oui. Traduire le mot « peace »
oui.
Okay.
Oui. Et vous posez la question plus générale de la notion même de shalom, c'est cela qui vous intéresserait, que sur lequel Monsieur Richer pourrait parler en rapport avec l'Église locale, en rapport avec l'Église, la vie de l'Église. Oui, Monsieur Richer.
Je ne suis pas sûr d'être bien préparé pour répondre, mais j'ai une idée qui me vient à l'esprit. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, la shalom, la paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. C'est presque un synonyme de plénitude. J'espère que je ne me trompe pas beaucoup si je fais un rapprochement entre ce terme et le terme de communion dans le Nouveau Testament. Je pense que les deux notions se recoupent beaucoup.
Moi, je pense que c'est dommage que le mot ait été perdu, le mot shalom, mm-hmm. parce qu'il peut dire beaucoup.
Mm-hmm.
Il y a un verse Jean 12, non, excusez-moi, Corinthians.
Oui, oui.
Corinthians,
première aux Corinthiens.
Le premier Corinthiens, chapitre
12.
Verset. 26.
Mm-hmm. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
C'est shalom.
Ce serait la notion de paix, donc shalom en hébreu. Et moi, je peux en rajouter à ce qu'a dit Monsieur Richer en particulier un élément. Il a dit, c'est très proche de la communion. Je signale que vous avez une classe de sacrifices dont parle le début du Lévitique, les Shelamim, dont précisément les traducteurs ne savent pas très bien s'il faut les traduire sacrifice d'action de grâce, sacrifice de prospérité, sacrifice de paix, sacrifice de communion. Vous trouvez toutes ces diverses traductions dans les versions bibliques qui existent, ce qui montre la proximité de ces notions. Précisément, l'idée de communion et l'idée de paix sont deux idées qui s'entrelacent, qui sont extrêmement proches bibliquement. Et en rapport avec l'Église, et en rapport aussi avec l'origine juive de notre frère, je pense qu'on peut signaler que c'est spécialement parce que le mur de séparation entre les juifs et les non-juifs a été aboli par la croix de notre Seigneur Jésus que l'Église est le lieu même de la paix. Le second chapitre de l'Épître aux Éphésiens dit « Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, des deux catégories, juifs et non-juifs. » L'Église est le témoignage de cette union, communion dans la paix du Seigneur Jésus. Et je crois d'ailleurs personnellement, ce n'est pas toujours dans les parallèles qu'on indique que cette formule de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, « Il est notre paix » est une citation de Michée, le prophète Michée, Micah, où il est promis dans le passage qui indique qu'il naîtra à Bethléem, lui-même il sera paix. Lui, paix. C'est littéralement ce qui est indiqué avec Shalom. Hein. Ou Shalom. C'est un grand thème biblique, en effet. Et ça ne vaut pas seulement de l'Église universelle, en laquelle juifs et non-juifs sont maintenant unis en un seul corps, mais aussi pour l'Église locale. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15 en particulier, l'apôtre Paul souligne précisément que juifs et païens doivent être ensemble, s'accueillir mutuellement dans la même église locale, celle de Rome. Il leur écrit tout spécialement avec ce souci. Donc je crois que c'est bien un rapport avec ce thème de la paix que notre frère a lancé sur le tapis pour nous. D'autres remarques, questions? Oui, monsieur Sidamon.
Ils sont en réserve vis-à-vis
Moi, je ne l'ai pas lu, hein, donc je ne vais pas m'exprimer. Je suis un homme prudent, il y a certains livres que je ne lis pas. Et M. Richard peut-être peut répondre. Je ne sais pas si Mme Bonnet, vous l'avez lu.
Oui, je crois qu'il a plus potassé que moi.
J'ai surtout parlé de la méthode qu'il utilisait, qui consistait à partir finalement d'une image non biblique et de tirer les conclusions surtout de ça. Alors, ça ne m'a pas satisfait comme méthode. Maintenant, il y a dans ce livre des idées intéressantes. Mais ce qu'il dit sur la cellule elle-même, je l'ai trouvé contestable, surtout sur le plan de la méthode. J'ai préféré la première partie du livre, où il parle des relations dans la communauté, les lois, je crois les 7 lois qui régissent les relations dans la communauté. Et par contre, son idée sur la cellule ne m'a pas convaincu parce qu'il m'a semblé qu'il partait d'une image non biblique, qu'il essayait plus ou moins de justifier bibliquement, mais des fois même pas du tout. Alors, ça se limite à la cellule.
Mademoiselle Monet, vous avez lu le livre, intervenez aussi. Donc il faut se déplacer, il y a une petite ficelle, alors je n'ose pas défaire le micro.
il part du principe que donc, l'image du corps de Christ serait l'Église universelle et que chaque communauté serait une cellule. Et je crois que ce serait quand même assez aberrant de penser qu'une communauté serait le pied ou serait un organe comme ça. Je crois que ce que Paul essaye de dire, c'est que chacun dans la communauté, on a notre place à jouer. Et je crois vraiment que l'image que Paul utilise, elle est pour la communauté. Mais ce texte, donc 1 Corinthiens 12, je pense qu'on y reviendra dimanche prochain aussi.
Information exclusive.
Comment
Le titre semble en être « La cellule vivante », un livre de notre frère M. Ralph Chalice, qui a prêché dans notre église, vous le rappelez, et qui est décédé il y a peu d'années. Donc, un livre sur l'église. Monsieur Papin.
J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit ce matin. Je pense cependant qu'il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, peut-être la question institutionnelle, qui ne pas arriver, mais il me semble, cet aspect me semble être aussi un des facteurs de cohésion concernant le groupe social, dont on a évoqué la présence réelle, c'est l'aspect de l'ordre dans lequel la communauté doit être. Cet ordre peut voir la cause, toute chose doit passer à l'ordre, etc. Donc, j'aimerais que M. Lecher nous dise quelques mots, qui peut-être en relation avec les structures, sans entrer dans les détails, mais.
C'est vrai que j'ai volontairement omis de parler de ça. Je trouve que j'ai déjà été trop long. Et je n'ai même pas vous présenter ce que j'avais préparé. Il me semble que j'en ai un peu parlé quand j'ai répondu à la question « Qui enseigne ?» J'ai parlé de catégories, de personnes dans l'église locale qui se distinguent par leur fonction. De pasteur, président, conducteur. Donc, et j'ai rappelé aussi, quand j'ai dit que nous étions tous pasteurs les uns des autres, qu'il ne fallait pas niveler, on ne l'est pas au même degré et de la même manière. Quand on est, je veux dire, pasteur professionnel, et quand on l'est, quand on est dans une simple relation de membre à membre. Mais je crois que ça serait trop long d'entrer dans la question des structures de l'Église. C'est évident qu'un groupe aussi est structuré. Je voulais aussi parler de structures de communication dans l'Église et d'organisation, mais c'était dans mon papier, mais c'est un peu long. C'est sûr qu'elles sont nécessaires. J'ai plutôt voulu insister, parce que j'insistais sur la qualité des relations plutôt que sur la manière de fonctionner, j'ai insisté sur le fait que nous étions tous responsables. Alors, ça demande à être contrebalancé. Mon exposé était un peu orienté. Je le reconnais.
Je pense que j'ajouterais, à titre personnel, d'une part que cette orientation est, je crois, opportune dans notre Église. Toujours être tenté de tous les côtés à la fois, mais je pense quand même que notre Église est plus tentée par un excès de rigidité dans l'ordre que par le désordre effervescent, comme c'est peut-être la tentation d'autres communautés. Donc, il me semble qu'il est bon de mettre l'accent sur le caractère mutuel et fraternel plutôt que sur la nécessité d'un ordre, parce que cet ordre, en général, nous l'avons. C'est peut-être la première remarque. Une deuxième remarque que je suis porté à faire, c'est que la Bible ne dit pas textuellement « Dieu est un Dieu d'ordre ». Elle dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est très intéressant de noter cette nuance donc dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Et puis, troisième remarque, à propos du texte d'Acte 2 qui a été pris comme base et des formes de culte, je me rappelle avoir entendu, il y a 2 ans je crois à peu près, non, peut-être seulement, John Stott, peut-être un petit peu hardi, mais suggérant qu'il y a dans ce texte l'idée de la dualité de 2 formes de culte commun, l'une plus solennelle, plus structurée, ordonnée, si on veut, et l'autre plus familière et spontanée. Les premiers chrétiens, d'une part, étaient tous les jours au temple, et le temple, vous savez, c'était solennel, c'était très ordonné,
il y avait certaines valeurs, parce qu'il y a, je crois, des valeurs de dignité, de choses que l'on fait bien, de chants impeccablement exécutés par des spécialistes, des lévites qui sont formés pour ça, etc. Ils étaient tous les jours assidus au temple, et semble-t-il participaient encore aux prières de la communauté juive à Jérusalem, et d'autre part, ils se réunissaient dans les maisons pour rompre le pain, pour avoir ce repas qui n'était pas seulement symbolique, mais au cours duquel, effectivement, les symboles du corps et du sang de Jésus étaient partagés. Et là, semble-t-il, l'atmosphère était plus familiale, plus spontanée. Et c'est une remarque assez intéressante aussi à propos de cette nécessité de l'ordre, mais aussi de la liberté dans la vie de l'Église.
Il y a quelques ans, j'ai à une église et l'heure pour le commence, il a tout arrive, l'heure passée et tous les gens parlent avec nous autres et j'ai dit à quelle heure la culte commence. Il dit à moi, il a déjà commencé. Et je dis oui.
Bon, ça pourrait peut-être arriver ici aussi quand même, hein. Avec tout ce que j'ai dit de l'ordre, c'est vrai que... Mademoiselle Sally.
Tu as parlé de faire des choses ensemble. Je voudrais que tu puisses expliquer ce que ça implique et ce que ça engage.
Alors, j'ai l'impression que c'est un sujet en effet très important, que nous allons demander à Monsieur Richard de s'exprimer là-dessus, mais que ça devra être le dernier sujet, parce que nous allons quand même tenir l'heure de terminer. Donc, le dernier sujet qu'il va aborder, Mademoiselle Monet pourra ajouter, et Monsieur Dieujuste. Ah, c'est pas le même sujet? Dites votre question maintenant, et puis Monsieur Richard s'arrangera pour répondre en une fois ou deux. Oui, Monsieur Dieujuste, quelle était votre question?
Excusez-moi, mais c'est une question de la même chose. Dans cette question, il y a aussi une intonation.
Oui.
Moi aussi, il y a une église.
Oui.
Et c'est là, dans le deuxième cas, il y a dit que c'est le Seigneur Jésus qui a fait cette don à son église, à ses enfants. Je crois que nous devons, en tant que communauté, en particulier, nous devons reconnaître aussi le ministère bien fait en Dieu. Alors, je n'ai pas le droit de trancher parfois à écouter ou à juger ou peut-être à éprouver ou à critiquer dans le sens que ce n'est pas de parler de l'image, de critiquer. Si vous êtes dans le ministère, etc. Mais on est de le connaître, le ministère de l'homme. Et c'est le Seigneur qui fait cette loi. C'est Dieu qui a fait. Alors là, ça est. Ça fait rien. Mais alors la question, j'attendais que c'est pour le général, c'est l'église locale. L'église de maison. L'église de maison, parce que la première fois que nous avons installé en anglais, l'église de maison. Et actuellement, c'est on constate ça dans l'église de maison. Et c'est une mauvaise. Alors, moi, je vais s'enlever à cette tâche-là. Donc, j'enseigne les âmes et évangiles dans la maison.
Bon, eh bien, monsieur Richard. Unir les deux sujets, je pense. Je lui laisse la parole là.
J'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que j'aurais pu un peu développer, que la charge d'enseigner, mais ceci est valable à mon avis de toute autre charge dans l'Église, et ça répondra en partie à la question de M. Patin sur l'ordre, toute charge dans l'Église correspond de manière à mon avis indissociable à une formation en rapport académique ou sur le tas, peu importe, formation quand même, à un appel de Dieu, un don, et à une charge, à une reconnaissance de l'Église. Alors, il me semble que ceci est nécessaire à l'ordre de l'Église, à l'unité de l'Église. Et c'est vrai qu'on pourrait, quand on lit l'histoire, les biographies de grands hommes qui ont marqué l'histoire, les missions de l'Église, on pourrait être tenté par leur esprit, qui souvent a été un esprit d'indépendance. Souvent, ils ont dû se démarquer des églises auxquelles ils appartenaient. Il me semble que ça, si ça doit nous encourager au zèle pour le Seigneur, ça ne doit en tout cas pas nous encourager à imiter ce qui a pu être leur défaut de, comment dirais-je, d'insubordination ou de manque de sens de l'unité structurelle de l'Église. Maintenant, je continue et je vais embrayer aussi sur les groupes de maison. Je dirais, bon, et je terminerai peut-être avec ça, que les animateurs de groupes de maison me semblent entrer dans la catégorie de ceux qui ont une charge dans l'église locale qui doit correspondre à un don du Seigneur, à une formation, à une reconnaissance de l'Église. Voilà, je ne vais pas être plus long sur la question. Alors maintenant, sur les buts et les objectifs, nous avons, comme je l'ai rapidement dit, les objectifs, les buts ultimes qui sont de glorifier le Seigneur par nos vies et notre vie communautaire. C'est nécessaire de le rappeler souvent. Nous avons les buts un peu plus détaillés, mais à long terme, qui concernent toute la vie de l'Église et qui consistent à transmettre le témoignage des apôtres, leur enseignement, à vivre le culte que... En effet, je considère un peu comme, bien que je n'ai pas lu John Stott, comme comportant une dualité de choses très bien organisées, structurées et stables, et autour de laquelle gravite une créativité plus libre, parce qu'il y a aussi de la créativité dans les choses structurées. Vivre la vie... du culte, la communion fraternelle, mais il me semble que pour même atteindre ces objectifs-là, il nous faut nous fixer des objectifs plus précis. Et ceci renforce aussi cela. Tout est dans tout. Alors, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple et en même temps, je vais la publicité.
Ce sera votre annonce.
Voilà.
Je me doutais que vous alliez pouvoir.
je reprends ce que je n'ai pas écrit au tableau. Et dans la première rubrique, nous parlions donc de l'enseignement des apôtres. Alors, en équipe, avec le conseil, on a étudié un peu la manière dont ça se faisait. On a écouté les avis des uns et des autres. Et on s'est dit que... Que ce qui... Peut-être l'unique lacune qu'il y avait dans l'enseignement dans notre église... Je ne retrouve pas ma feuille, peu importe. C'était l'introduction à la Bible et à la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'on a un enseignement doctoral, c'est l'Institut biblique de M. Blocher. On a au culte des prédications qui sont à la fois des exhortations, des encouragements, éventuellement de la répréhension, de l'explication de textes bibliques. On l'a aussi dans un institut biblique qui est celle de Madame Diaguraga et de Mademoiselle Monet, qui cette année travaillera aussi sur un texte admirable, qui est le Sermon sur la montagne. Il y a besoin aussi de parler de sujets qui touchent à la pratique de la piété, et de la vie chrétienne, des sujets qui concernent la morale, la manière de vivre sa foi, d'envisager la spiritualité. Et c'est ce que nous nous proposons de faire dans l'institut biblique que je dirigerai, avec en partie des sujets au choix et en partie des sujets que je proposerai. Et puis, on a dit, il manque quelque chose qui soit un peu comme une initiation globale. Alors, désormais, le vendredi soir, nous proposons de faire un projet sur un an. Qui soit un survol, parce que plusieurs se sont plaints de ne pas avoir de vision globale. On creuse des fois les textes très profondément, on en retire des richesses incroyables, mais on n'a pas de vue d'ensemble. Et finalement, la Bible ressemble pour nous à du gruyère, avec des trous et puis des choses qu'on connaît mieux. Alors, dans cette année, le vendredi soir, nous proposons de faire un survol de ce qu'il y a dans la Bible, en partant depuis le début, des résumés, des introductions aux livres, aux auteurs, et avec, en essayant d'en tirer le message principal, et ce qu'il peut avoir à nous dire aussi aujourd'hui. Faire une approche aussi de la doctrine chrétienne, qu'est-ce que la Bible enseigne finalement, un peu sur tout, de manière structurée, et puis qu'est-ce que la Bible enseigne sur la vie chrétienne, la vie de l'Église. Alors on se propose de faire tout ça en un an, le vendredi soir. Alors ça concerne ceux qui ont été baptisés récemment, ceux qui sont chrétiens depuis peu, ceux qui sont même peut-être pas encore vraiment chrétiens, mais qui sont intéressés et qui voudraient en savoir plus pour s'engager, et puis même tous les autres, tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche d'approche globale ou qui auraient envie de la refaire. Alors c'est une réunion aussi où on chante avec la guitare, où l'on prie aussi, et voilà. Un but précis qu'on se fixe pour l'année. C'est quelque chose de ponctuel. Alors, dans la cohésion d'un groupe, ce qui joue, c'est la pertinence des buts, premièrement. Alors, la pertinence, ça veut dire, si ce but, cette formule répond, et les autres, répondent aux besoins, ils sont pertinents, et donc, le groupe va rester uni, va bien fonctionner. Un autre aspect, c'est, est-ce que ces buts sont énoncés clairement ? Alors, jusqu'à présent, ça n'avait pas été fait. Et ça n'a pas été fait à la réunion d'église le dimanche passé, parce que ça n'était pas encore tout à fait prêt. Il faut que ça soit dit clairement et que tout le monde comprenne de la même manière. Sinon, chacun part dans des directions différentes. Alors, pour un truc comme ça, c'est simple. Mais pour des projets peut-être plus ponctuels, ou plus au contour plus flou, c'est peut-être plus difficile. Et puis après, évidemment, il faut que ces objectifs soient acceptés par l'ensemble du groupe. Alors, là, je le fais de manière un peu magistrale. Vous pourrez toujours venir me dire, ou même me dire tout de suite si je ne suis pas d'accord. On a constaté aussi dans les groupes que un projet, un changement, était beaucoup plus facilement accepté quand le groupe participait à la décision. Alors, ça, c'est peut-être un fonctionnement vers lequel il faut tendre, sans que ça devienne la démocratie directe et totale, comme les Grecs qui étaient toute la journée sur la place publique pour débattre des affaires. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça, mais peut-être qu'il faut aller dans ce sens. Et ça serait peut-être un objectif aussi sur une année. Voilà un peu ce que je dirais. Il y aurait encore d'autres choses à dire. Mais je laisse la place à Isabelle.
Mais moi, je voudrais revenir sur un des points qu'a évoqué Joël dans son exposé, sur tout l'aspect communautaire et relationnel surtout. Au début, tu as dit que l'Évangile était aussi vous appelait à avoir une relation avec quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment la pierre de touche là. C'est quelque chose de fondamental qu'on est appelé à vivre en relation avec Dieu et en relation avec les autres. Nous sommes des êtres de relation. Et tout le travail dont tu parlais pour pouvoir vivre en relation, ça me semble assez formateur aussi. Et je voudrais juste te donner une petite phrase, la citation de Michael Griffith, qui dit que l'Église n'est pas une salle d'attente de troisième classe en attendant la première classe céleste.
Je crois que, étant donné l'heure, je vais demander à Monsieur Richer de présenter ses livres aux personnes qui voudront venir les voir auprès de lui dans quelques instants. Je crois que ce sera très intéressant, en effet, que les livres à l'appui de ce qu'il nous a dit, puisse nous être présenté. Mais je crois qu'il vaut mieux que nous closions maintenant notre réunion et puis que M. Richer, alors ensuite, fasse cette présentation pour tous ceux qui sont intéressés. J'espère tout le monde. Je vous invite à vous lever pour la prière et la bénédiction finale. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour l'Église que tu constitues toi-même, ton Église. Nous te louons pour le soin que tu prends d'elle. Nous voulons t'avouer que nous sommes loin de l'idéal que tu nous as révélé dans l'Écriture. Nous nous humilions de nos insuffisances d'Église locale et nous te demandons d'œuvrer parmi nous puissamment dans les mois qui viennent. Nous remettons à ta grâce. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec nous tous. Amen. Alors, Monsieur Richer montre donc maintenant, pour ceux qui peuvent rester, les livres.